Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% football italien. On aborde la dernière ligne droite du championnat saison 2021-2022, la dernière semaine de compétition nationale, et cela méritait bien un petit épisode. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour monsieur Johan Crochet, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoute Johan, une folle semaine qui s'annonce.
Ouais.
Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu une lutte comme ça pour le titre à la dernière journée?
C'est 2010, l'Inter de Mourinho, la Roma de Ranieri.
C'est incroyable, c'était un autre temps, autre monde.
C'est ça.
Mais
c'est bien franchement, c'est, ouais. Pour le suspense et tout, c'est cool hein, franchement de se dire qu'on a à la fois un enjeu en haut, un enjeu pour des places européennes et un enjeu pour le maintien. Et tout ça la dernière journée, c'est...
Ça faisait trop longtemps.
Exactement.
Trop longtemps qu'on avait pas
vécu ça. On a trop longtemps souffert des championnats gagnés avec 5 ou 6 journées d'avance, donc pour ne pas se réjouir de ce qui se passe aussi cette
saison.
Alors Guillaume, on va revenir sur cette 37e journée et on va organiser ça autour de 3 blocs. En gros, la lutte pour le titre, la lutte pour l'Europa League et la Conference League, et aussi la lutte pour le maintien. Et évidemment, on va commencer par la lutte pour le titre. Avec deux équipes qui restent en lice, le Milan et l'Inter. Alors ce week-end, le Milan a battu l'Atalanta 2-0, l'Inter s'est imposé à Cagliari 3-1. On commence par le Milan, on fait l'ordre chronologique des deux matchs, parce que évidemment que quand on va parler de l'Inter, il faudra aussi parler de l'état d'esprit de cette équipe, la connaissance du résultat de Milan. Et donc où ils étaient obligés de gagner, c'est-à-dire qu'un match nul les condamnait leurs espoirs au titre. Donc si on commence par Milan, Alors toi, tu étais au stade. Ouais. Est-ce que en première mi-temps, tu as vu comme moi et tu as ressenti comme moi un peu des jambes qui tremblent parce qu'on a eu des erreurs techniques vraiment très inhabituelles de joueurs qui, d'habitude, en temps normal, ne font pas ce type d'erreur sur des remises toutes bêtes, sur des décalages, sur des passes qui revenaient dans l'axe ou des passes qui allaient vers l'extérieur en la ligne de touche. On a senti quand même un peu de tension en première mi-temps.
Ouais, je sais pas si tu te souviens, moi, la frappe de Muriel, tu sais, ça débouche quand même d'une erreur de contrôle de Théo Hernandez qui se rate, un contrôle tout simple en plus. Et c'est vrai que oui, tu sentais qu'il y a des joueurs qui étaient un peu paralysés par l'enjeu parce que faut rappeler que, à part certains, comme Giroud, comme Maignan, qui a gagné avec Lille la saison dernière, c'est une équipe quand même qui reste très jeune et qui n'a pas beaucoup gagné, si tu prends joueur par joueur. Donc oui, j'ai ressenti ça. Après, c'est assez étonnant parce que c'est comme une équipe qui, en général, tu vois, quand elle est menée à Rome contre la Lazio, quand elle a été menée aussi par l'Hellas la semaine dernière, c'est une équipe quand même qui reste assez calme pour renverser un score. Et c'est vrai que là, pour la première fois, alors, est-ce que aussi la pression du public, le fait que voilà, tu savais que tu avais une première balle de match, c'était un peu contracté au début, ce qui peut aussi se comprendre. Après, la deuxième mi-temps était beaucoup plus fluide et le fait que tu ouvres le score assez vite en deuxième mi-temps a forcément aidé dans l'état d'esprit, notamment parce que tu étais porté par un côté gauche, par un côté gauche, pardon. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, mais ce côté gauche-là, entre Théo Hernandez et Léao, c'est probablement l'un des meilleurs de Serie A. Parce que, après, moi, j'ai beaucoup suivi l'Inter, mais c'est pas pareil, c'est un 3-5-2, donc avec Perisic qui a encore fait une passe décisive ce week-end. Mais en tout cas, c'est vraiment l'axe fort. On le savait depuis quelques mois, même voire quelques années. Mais c'est vrai que cette année, avec la progression de Léao qui a marqué son 11e but, avec Théo Hernandez qui a mis un but, probablement l'un des plus beaux buts de la saison, c'est vraiment l'axe fort de cette équipe-là qui penche beaucoup à gauche. Parce que si tu vas à droite, voilà, Calabre est un peu dans le dur. Et devant, tu as une espèce de ballottage permanent entre Messias et Salemek, ce qui est vraiment. C'est vrai que les deux se valent. Mais c'est un qui est un peu plus vieux que l'autre. Mais le côté gauche, c'est vraiment le côté fort de Milan.
Mais ça va être un des enjeux du prochain mercato, hein, c'est-à-dire trouver sur le côté droit des joueurs qui sont en capacité de d'éteindre un peu la trop grande dépendance au côté gauche de Milan. Parce qu'aujourd'hui, évidemment que c'est une force, évidemment que les deux sont, surtout en ce moment, dans une forme quasiment inarrêtable. Néanmoins, tu te retrouves un jour où les deux sont dans un mauvais soir et t'as pas vraiment d'alternative et t'as pas de contrepoids sur un autre secteur offensif notamment qui est en capacité d'amener autant parce que finalement Théo et Léao, quand tu regardes vraiment en détail cet effectif là, c'est quasiment les deux seuls joueurs capables de gagner des 1 contre 1 dans cet effectif là. Tu as pas de milieu qui Brahim Diaz n'est pas un joueur puissant d'élimination de 1 contre 1. Je trouve que c'est plus un joueur d'évitement de contact que de gain de 1 contre 1. Messias et Selmaker, c'est trop
léger.
Ouais, c'est trop léger, c'est trop léger. Moi je me demande même si en fait cet été, il faut pas se dire bon bah les deux, c'est trop léger et on fait partir les deux et on vraiment il faut remodeler ce côté droit parce que
disons que le gap est un peu trop grand entre le couloir gauche et le couloir droit.
Ouais, certainement. Et en fait ce qui est une force peut vite devenir aussi une faiblesse hein parce que comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'un match où l'un des deux est absent sur suspension, je sais pas, sur blessure, etc. Et l'autre est pas dans un bon soir. Offensivement, on l'a vu cette saison, il se passe rien en fait. Enfin, rien. Bah, pas grand chose.
Ouais, tu sais, pour remplacer là-haut, tu peux encore miser sur Rebic. Et encore, Rebic, ça dépend toujours de quelle façon il s'est levé le matin, parce que c'est un joueur aussi atypique dans son état d'esprit et dans son jeu, même si en ce moment il est dans une bonne forme, il est revenu en forme. En tout cas, tu vois, imagine, je dis une bêtise, Théo Hernandez demain suspendu, là maintenant t'as Ballo Touré. Et Ballo Touré qui a quasiment pas joué cette saison, qui au derby allé avait commis pas mal d'erreurs, dont un penalty. Ouais. Même là, tu vois, entre Théo Hernandez et Ballo Touré, je pense qu'il y a quand même une voie de milieu où tu peux trouver un joueur qui peut faire des paniers à droite, entre Calabria et Florenzi, on va dire que c'est un peu équivaut. Même si Florenzi, évidemment, est un joueur beaucoup plus expérimenté et Calabre, on va dire, voilà, lui aussi est en net progrès et a pris une autre dimension. Mais c'est sûr qu'à gauche, et je pense que c'est un côté que connaît bien Paolo Maldini, Évidemment qu'il y aura forcément une intervention l'été prochain pour, comme tu le disais, pour que l'équipe soit moins dépendante de ce côté-là, notamment en cas d'absence. Et surtout, Johan, il faut pas oublier que tu es avec des champions aussi à côté,
ouais,
à gérer. Théo et Léo ne pourront pas jouer tous les matchs tout le temps, et surtout à ce rythme-là, et ils ne pourront évidemment pas être décisifs comme ça tout le temps. Donc il faudra forcément trouver une autre solution pour, voilà, pour combler un peu le manque qui peut se créer si l'un des deux est absent.
Effectivement. Il y a des questions assez passionnantes, je trouve, sur la construction de l'effectif pour la saison prochaine. On y reviendra plus tard parce qu'on fera des petites choses autour des besoins des différents clubs, etc., sur le marché des transferts. Mais disons que ce type de match-là fait que tu as eu beaucoup de confirmations sur ce qui doit être amélioré pour la saison prochaine. Parce que ça fait maintenant quand même un moment que toute la construction offensive dans le dernier tiers, et même au-delà même de la construction, c'est déclencher une action qui change de rythme, qui change la vitesse d'exécution d'une action, qui accélère tout, ça passe par Léo, surtout. Et ça fait 2-3 mois où c'est vraiment exclusivement par Léo. Et donc, il va falloir que ça bouge un peu, parce que même si on reprend ce match contre l'Atalanta, d'ailleurs, c'est marrant parce que Léo marque un but en passant dans une espèce de position numéro 9 à la sortie de Giroud, et l'entrée de Rebic qui part d'abord sur le côté gauche. Et c'est là que tu vois que contre une équipe qui joue très haut, avoir aussi un profil comme Léo en tant que numéro 9, ça peut être très utile dans la gestion de la profondeur. Je pense à des équipes comme la Fiorentina, comme l'Atalanta, quand t'as des équipes qui jouent haut, bah finalement avoir un joueur comme Giroud, c'est peut-être pas forcément le profil le plus utile.
Giroud était en grande difficulté, hein, on l'a vu en première mi-temps, c'est plus compliqué pour lui.
C'est sans doute, enfin moi je trouve que c'est son plus mauvais match, enfin son match le plus compliqué depuis qu'il arrive à Milan.
Ouais,
ou...
Parce que même dans les déviations, il est beaucoup.
Non, il y a rien eu en fait. Hein.
Ouais. Était pas juste du tout, et c'est pour ça que Rebic a rentré assez vite, comme au match aller d'ailleurs, où Rebic avait posé beaucoup de difficultés, parce que comme tu le disais, c'est un profil assez mobile, qui embête beaucoup une défense comme l'Atalanta qui joue assez haut. Mais après, tu vois, moi j'ai encore été impressionné, Johan, et tu pourras me dire ton avis à toi, mais déjà par la charnière centrale, et tu te demandes parfois si Botman est vraiment utile, parce qu'on sait que voilà, il arrivera probablement l'été prochain pour 35 millions d'euros. Mais c'est vrai que Pierre Kaloulou, honnêtement, au-delà de Tomori, on a déjà évoqué son profil dans le podcast, mais un joueur comme Pierre Kaloulou qui vraiment s'est imposé, toi Johan, tu l'avais souvent dit, mais par rapport à Romagnoli par exemple, qui a perdu sa place face à Tomori, face à Kier et face à Kaloulou, parce que Kaloulou a réussi quand même à piquer la place de Romagnoli, qui était quand même le capitaine de ce club-là. Ce qui est assez dingue.
Et encore avec une fois, la fameuse expression, mon cher Guillaume, capitaine de pédalo.
Je voulais te laisser le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que Kaloulou, honnêtement, personne n'en parle. Nous, en Italie, évidemment, Yohan, on entend parler, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'il rate quasiment jamais un match. Rarement une intervention. Enfin, c'est un joueur d'une propreté assez dingue dans chaque intervention, dans le timing aussi, dans la lecture du jeu. Et moi, c'est vraiment un joueur qui m'épate. Parce que je l'ai rarement vu passer à travers d'un match. Et surtout, on parle là, évidemment, de matchs sans jeu.
Ouais.
Et des matchs pas faciles. Parce que là, tu joues à Atalanta, tu as joué à la Fiorentina, tu as joué à Lazio, tu as joué à l'Hellas aussi, qui est une belle équipe de football cette saison. Et c'est quand même un joueur qui passe rarement au travers, malgré son jeune âge. Et malgré aussi le fait que pour lui, c'est aussi une première. Et moi, je sais qu'à Lyon, on en a beaucoup parlé comme un joueur très mature pour son âge, il était capitaine de la réserve, voilà, il a toujours eu cette leadership assez naturelle, mais c'est vrai que là il s'est imposé assez naturellement avec les blessures, et aujourd'hui c'est très compliqué de l'enlever, et c'est pour ça que je te disais, mais est-ce que Botman finalement est vraiment utile, même si je sais que Paolo Maldini a toujours dit qu'il faut toujours 4 centraux de très haut niveau pour pouvoir jouer toutes les compétitions à fond, que ce soit le championnat, la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va vraiment avoir 4 joueurs de très haut niveau, 4 défenseurs de très très haut niveau, et c'est pour ça qu'il va recruter Botman. Mais c'est vrai que Kaloulou aujourd'hui, c'est compliqué de l'enlever de ce 11-là, parce que Milan, je crois, a pris 2 buts de mémoire lors des 8 derniers matchs. Enfin, c'est assez fou.
Mais il y a plein de choses là-dessus. Je partage évidemment ton impression, c'est-à-dire qu'ils sont très bons, ils s'entendent très bien, ils ont des qualités assez similaires et très complémentaires aussi. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que généralement on dit que quand tu as des profils trop similaires, ça peut être un problème, et que notamment charnière, il faut parfois un profil plus relanceur que n'a pas Milan. C'est peut-être là-dessus aussi que Botman peut aider. Évidemment que Botman ou un autre, hein, mais si c'est Botman, ça va être très important qu'il soit là, parce que le fameux 4 défenseurs centraux, c'est évident, et dans les 4, il compte Kjær, et on verra comment il va revenir Kjær de sa lourde blessure, parce que c'est pas anodin, passer la trentaine, d'avoir une telle blessure, et voir à quel niveau tu reviens. Il y a aussi quelque chose qui va être peut-être un peu plus compliqué à gérer pour Kaloulou aussi, c'est la saison de la confirmation, qui va arriver la saison prochaine. C'est-à-dire qu'une fois que tu as surpris tout le monde, fondamentalement les attentes des gens, même les attentes au club, vont changer, c'est-à-dire que
l'exigence aussi.
Voilà, c'est-à-dire que là il dépannait, si tu veux, quelque part Kaloulou. Si l'année prochaine ça devient un taulier entre guillemets, les attentes seront pas les mêmes, les regards ne seront pas les mêmes, et tout ça pèse aussi. Je parle pas de qualité footballistique, mais plutôt de qualité mentale et d'approche autour de ton métier, de ton match, etc. Là-dessus, c'est, il y a plein de questions aussi qui sont très très intéressantes. Mais aujourd'hui, tu vois, même si Botman revient, même si Kjær revient, si on se base uniquement sur ce qu'on voit depuis 8 journées depuis le mois de janvier, effectivement, quand cette charnière-là est alignée, c'est très impressionnant. Après, on est obligé de mettre une sorte de bémol, c'est qu'il faudra voir aussi en Ligue des Champions.
Bien sûr.
Parce que cette charnière-là n'a pas été testée en Ligue des Champions de manière continue, parce qu'il y avait Kjær, et que Kjær a joué la Ligue des Champions, et donc Kjær a l'expérience, Kjær a tout ça, donc il faudra voir évidemment un petit peu tout ça, mais effectivement, si on se base simplement sur ce qu'on voit depuis janvier, c'est la meilleure
charnière. C'est assez bluffant.
Mais c'est la meilleure charnière d'Italie, c'est tout simple en fait. C'est ceux qui arrivent à museler le mieux les attaquants adverses. Je trouve qu'ils sont vraiment à un niveau de performance très élevé, où ils combinent ce qui va très bien avec l'évolution du jeu, un grand dynamisme, une grande explosivité sur les premiers appuis, un côté robuste aussi dans les duels, capable d'aller assez vite aussi pour éventuellement courir vers ton but et dans la gestion de la profondeur. Enfin bref, ils ont quand même pas mal de... Dans le jeu aérien, c'est peut-être pas là où ils sont le plus forts, mais ça reste tout à fait acceptable pour le haut niveau. Bon, il y a quand même pas mal de choses positives. Et en plus, quand derrière eux, t'as Maignan, qui, mine de rien, t'as parlé du tir de Muriel tout à l'heure. Moi, l'arrêt qui m'hallucine le plus, c'est face à Zapata, quand il tire en pivot en deuxième mi-temps, enfin, en fin de match, où il l'arrête avec les jambes, avec une position un peu bizarre d'arrêt. Voilà, l'Atalanta a deux grosses occasions. Bon, bah, Maignan est à chaque fois dessus aussi. Donc, forcément, ça aide aussi à bien performer.
Une autre considération, tu me diras si tu es d'accord. Moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, on peut dire clairement que c'est Stefano Pioli, il va probablement jouer le match de sa vie, de sa carrière dimanche. Parce qu'on rappelle que c'est un entraîneur même assez décrié parfois en Italie. Enfin, pas décrié, mais parfois moqué. Voilà. Évidemment, par son palmarès qui est assez maigre, parce qu'il a très rarement gagné dans sa carrière d'entraîneur. Donc voilà, pour lui, dimanche contre Sassuolo, ce sera évidemment très, très important. Mais moi, une qualité que j'aime beaucoup chez cet entraîneur-là, c'est sa flexibilité tactique. Mmh. Et toi, je sais que tu es très attaché à ça. Mais tu vois, par exemple, vu du stade, tu vois, par exemple, beaucoup, évidemment, des joueurs qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire. Mais si tu regardes toute la saison générale, et d'ailleurs, la Gazzetta en parlait lundi matin, au lendemain du match. C'est une espèce de 4-1-4-1 avec Tonali qui était plus haut. Et en fait, moi, cette saison, j'ai vraiment marqué ça avec l'AC Milan, c'est que à chaque match, vraiment, tu as des innovations. Alors, pêle-mêle comme ça, parfois, tu as du Théo qui part dans l'axe, comme au match aller face à l'Atalanta. Tu as Calabria aussi qui repique parfois et qui laisse passer une défense à 3. Donc, en fait, il y a beaucoup de mode de ce Milan-là qui est assez caméléon et qui, en fonction de l'adversaire, sait aussi s'adapter. Et c'est grâce aussi, évidemment, à son entraîneur. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, tu vois quand même un Stefano Pioli que, bah, nous, on le connaissait évidemment, Johan, mais c'est vraiment la première fois que je le vois aussi flexible Et surtout que souvent, ça marche. Donc, en fait, c'est un entraîneur qui a su aussi se remettre en question, qui a beaucoup progressé depuis son arrivée à Milan, qu'il avait repris à l'époque le flambeau de Gianpaolo. Mais c'est vrai que cette saison, vraiment, ça me marque cette capacité à s'adapter et à surprendre l'adversaire, que ce soit même Tudor face à l'Hellas ou Gasperini deux fois sur Marcello, match retour. Enfin, il a vraiment su parfois inventer des choses pour créer évidemment la surprise chez l'adversaire. Et je trouve que cette capacité d'adaptation, c'est hyper important dans le football d'aujourd'hui, le football moderne, parce que c'est très bien évidemment d'avoir des dogmes qui sont évidemment importants pour les valeurs d'une propre équipe, mais savoir s'adapter à l'adversaire et regarder ses faiblesses pour appuyer dessus, moi c'est vraiment une qualité que je vois chez ce Milan-là. Cette saison, c'est vraiment quelque chose moi qui m'a marqué. Alors tu me diras ce que tu en penses, mais moi c'est un truc vraiment qui m'a surpris parfois, parce que ça marche assez souvent.
C'est vrai, et Pioli n'est pas connu pour avoir... comment dirais-je, un côté dogmatique ou des idées bien très sûr, arrêtées, bien en sûr, fait. Bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Moi, il y a plein d'entraîneurs qui ont des idées très arrêtées qui me plaisent, et des entraîneurs plus flexibles qui me plaisent aussi, en fait. Moi, pour le coup, je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais tu as donné des exemples. Je pense aussi à Pioli qui, quand c'était nécessaire, a mis Kessi en individuel sur le 6 adverse. Quand il mettait Kessi en 10, c'était pas tant pour ce qu'il allait apporter à son équipe avec ballon, mais plus sur comment il allait bloquer le 6 adverse. D'ailleurs, ça lui avait été reproché par Sacchi. Je me rappelle plus le match, je suis pas sûr que ce soit le derby aller, je sais plus après quel match ça avait été.
Le derby retour, il l'avait fait sur Brozovic, par exemple, pour marquer. Ça n'avait pas beaucoup marché. Mais en tout cas,
c'est peut-être le derby retour, alors, et Sacchi, je me souviens, il l'avait allumé dans la Gazzetta et j'avais trouvé ça un peu curieux. En gros, il avait dit, Pioli, arrête de... quand Pioli sort du cadre et veut faire déjouer l'adversaire, c'est pas bon, il faut qu'il joue son jeu, etc. Et bon, après, on sait que Sacchi est très attaché à ce qu'il pense lui et uniquement lui, mais j'avais trouvé ça dur parce que c'est une clé de lecture qui était intéressante quand même de la part de Pioli, et après ça marche, t'es le roi du monde, et ça marche pas, t'es le dernier des idiots, comme à chaque innovation tactique que tu tentes. Innovation tactique sur sa propre équipe, hein. Je parle pas d'innovation tactique dans le monde du football, mais voilà. Je te propose, Guillaume, qu'on passe sur l'Inter, ouais. Qui, je le disais tout à l'heure, savait qu'il devait gagner pour continuer à espérer pour la 38e journée, et on a un retournement de situation qui serait complètement fou. Il fallait gagner, donc déjà dans ton approche psychologique du match, c'est un peu différent. Mais il n'y a pas eu de panique. Je trouve qu'il y a eu une bonne gestion. Je les ai trouvés sereins, sûrs de leur qualité, de leur force. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Même quand Cagliari est revenu à 2-1, Cagliari a essayé de pousser, mais à aucun moment tu as senti un truc de panique où tu vois des défenseurs dégager à l'arrache. Tu vois, essayer de crier les uns sur les autres en mode attention à ce qu'on fait, etc. Non, tu sens quand même une vraie force collective qui se dégage de cette équipe. Et surtout des joueurs qui sont absolument conscients de ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Et tout est, je trouve, bien maîtrisé, bien exécuté avec cette Inter-là. Qui aura des regrets en fin de saison, sans doute, s'il n'est pas champion. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais... par rapport à où ils sont partis l'été dernier, ce qui s'est passé l'été dernier, et où ils sont aujourd'hui et ce qu'ils ont accompli, je trouve quand même qu'ils auront fait beaucoup de bonnes choses avec, et tu vas me dire ce que t'en penses, Guillaume, un Perisic, tu l'as dit tout à l'heure, qui est stratosphérique en ce moment et qui est dans une forme physique en plus comme on l'a rarement vu. Voilà, je trouve que la répétition des efforts est complètement dingue. Et d'ailleurs, c'est limite presque un problème, en fait, parce que t'as acheté Gosens 25 millions d'euros au mois de janvier, alors qu'il était encore blessé, donc il pouvait pas jouer tout de suite. Mais ça fait quoi? Ça fait deux mois et demi qu'il serait en capacité de jouer et donc d'augmenter ton temps. Alors, il a été absent 4 mois, donc on sait très bien qu'il n'avait pas joué 90 minutes, donc 30 minutes, enfin un quart d'heure, 30 minutes, plusieurs fois 30 minutes, ensuite on passe à une heure de jeu, etc. Et en fait, à part des bouts de match, Gossens.
Le fait, problème, c'est que tu ne peux pas prendre Pjanic.
Bah, c'est ça.
Tout simple. C'est un joueur aujourd'hui qui est indispensable, déjà parce qu'évidemment, il est très bon, mais c'est parce qu'il est dans la forme de sa vie et qu'en plus, il est décisif à chaque match. On l'a vu en finale de la Coupe d'Italie, qui s'est gagnée contre la Juve cette semaine, enfin, du moins la semaine passée, juste avant le dépassement à Cal. Et surtout, un joueur qui, aujourd'hui, est vraiment irremplaçable pour le 3-5-2 de Simone Inzaghi. Évidemment, il y a la question de son contrat, parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat et qui n'est toujours pas prolongé. C'est un vrai débat. On pourra en reparler dans un futur podcast Mercato, mais la réponse quand même devrait pas tarder à arriver parce que Perisic est en fin de contrat. Alors, la Gazzetta parlait récemment d'un possible accord avec la Juve. Moi, ça me paraît peut-être un peu prématuré quand même.
Oui.
Mais en tout cas, il a eu cette phrase après la finale de coupe où il a dit qu'avec les grands joueurs, on ne parle pas d'une prolongation aussi tard, sous-entendu pour lui. Donc, tu sens quand même qu'il y a une petite friction avec les dirigeants, même si Marotta, moi, paraissait assez optimiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il faut rappeler quand même que Perisic est revenu du Bayern, qui n'était plus trop voulu par l'Inter. Mais cette saison-là, honnêtement, je pense que personne ne s'y attendait. On va être honnête, même les supporters de l'Inter. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer parce qu'il est décisif à chaque match. Là, il refait un centre pour Darmian dans la coupe. En finale de coupe, pardon, on l'a dit, il a encore été décisif. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, par son activité, par le redoublement d'efforts, c'est assez impressionnant. Et pour revenir sur le sujet juste d'avant, tu sais, à Milan, moi j'ai rencontré de tout, hein, du supporter du Milan, du supporter de l'Inter, et tous avaient cette... ils m'ont même demandé à moi ce que j'en pensais, mais... Est-ce que c'est mieux de jouer avant ou après l'adversaire? Alors, il y avait deux options. Alors, évidemment, il y avait celle qui disait, nous, on préfère jouer avant, comme ça, au moins, on joue l'esprit libre, on peut mettre la pression sur l'adversaire. Et d'autres qui disaient, nous, on préfère jouer après parce qu'on sait au moins ce qu'a fait l'adversaire. Et en Italie, quand même, même la semaine dernière, il y a eu un peu un espèce de débat parce qu'il faut rappeler que Milan, par exemple, quand ils ont joué à la Lazio à Rome, ils étaient sous pression parce que l'Inter avait gagné contre la Roma, je crois. Et ils ont réussi à gagner à la dernière seconde avec un but de Tonali. Mais il y a vraiment ce débat-là, en tout cas. Alors là, il n'y aura pas de débat, Johan, parce que les deux équipes ont joué dimanche à 18h, donc ça règle le problème. Et comme tu l'as dit, l'état d'esprit de l'Inter, qui a aussi l'habitude maintenant de se jouer à ce niveau-là, parce qu'il est évidemment champion en titre, ils ont gagné la Coupe d'Italie, c'est une équipe quand même qui est revenue au très très haut niveau depuis, on va dire, 2-3 saisons, depuis le retour en Ligue des Champions avec Spalletti et le titre avec Conte. Donc c'est une équipe qui est habituée au très très haut niveau, donc à gérer aussi ses émotions, et c'est hyper important. On en a parlé dans le précédent podcast avec le Napoli de Spalletti. Mais c'est vrai que la réponse, comme ça, répondre dans la foulée à Milan, comme Milan d'ailleurs l'avait fait à Vérone, enfin, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y avait cette question là à Milan, des deux camps, côté Milan, côté Inter. Ils disaient, est-ce que c'est mieux de jouer avant? Est-ce que c'est mieux de jouer après? Donc, c'était un vrai débat et tu as bien fait de le poser parce que c'était vraiment un sujet de discussion avant les deux matchs de ce week-end.
Effectivement, tiens, j'étais en train de regarder aussi pendant que je t'écoutais, Guillaume, sur les deux derniers mois de Serie A.
Ouais.
Ça nous emmène au 18 mars. Perisic, une passe décisive contre la Fiorentina. Pas décisif directement contre la Juve. Ensuite, je fais la liste des matchs. Hein. Deux passes décisives contre l'Hellas Vérone. Une passe D contre Spezia. Une passe D contre la Roma. Un but contre Bologne. Un but contre l'Udinese. Pas de décisif contre Empoli. Et une passe décisive contre Cagliari.
Plus la Coupe d'Italie.
Plus la Coupe d'Italie. Là, c'était que la Serie A. On est sur un enchaînement qui est assez dingue. Ouais. Et je suis même pas sûr que... À l'Inter, depuis qu'il est à l'Inter, il a eu un enchaînement pareil. Donc, c'est difficile pour Gossens, qui imaginait sans doute jouer un peu d'ici la fin de la saison. Mais là, dernièrement, c'est même pas il joue 30 minutes, Gossens, il joue plus du tout. Parce que Perisic, tu le laisses pendant 90 minutes, tellement il est capable de répéter les efforts.
Et il a pris une dimension assez
ouais, je trouve ça très très fort.
Parce que tu vois, autant, évidemment, que Lautaro est revenu dans une très grande forme après un passage à vide où parfois les critiques pour moi ont été un peu injustes, un peu sévères, comme souvent parfois en Italie. Mais tu vois, Perisic a été très continu quand même tout au long de la saison. Il a toujours évolué à un très, très, très haut niveau. Et contrairement à des joueurs évidemment qui peuvent avoir des passages à vide, lui, a été d'une constance, d'une régularité assez dingue.
Ouais.
Et c'est pour ça que d'imaginer l'Inter sans Perisic l'année prochaine, c'est assez compliqué. Et comme tu as dit juste avant, Gosens est arrivé en janvier quand même pour une somme assez conséquente. C'est un investissement parce qu'évidemment, c'est un très grand joueur. Quand il est arrivé, il était blessé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il joue quasiment plus. Voilà, alors évidemment qu'à l'avenir, il aura probablement plus de temps de jeu, surtout que l'année prochaine. Alors, avec ou sans Perisic, il y aura la Ligue des Champions, il y aura plusieurs compétitions, mais en tout cas, voilà, il y a un joueur devant lui qui est en ce moment sur un nuage et que tu ne peux tout simplement pas enlever. Il y en a d'autres hein, qui sont évidemment à un très haut niveau à l'Inter, mais c'est vrai que Perisic, à chaque match vraiment, est décisif. Et c'est quelque chose, honnêtement, que moi, je ne m'attendais pas, du moins pas à ce point-là, en tout début de saison.
Guillaume, on va passer à la lutte pour l'Europe. Je cherchais le mot. La lutte pour l'Europe. Alors l'Europe, c'est pas la Ligue des Champions, c'est l'Europa League et la Conference League. Alors il y avait plusieurs matchs. Il y a 4 équipes qui sont concernées pour 3 places. Alors hypothétiquement, on peut avoir 4 places selon un concours de circonstances entre la finale de la Roma, où elle finit en championnat, etc. etc. Mais globalement, ça risque d'être 3 places. On avait donc la Lazio qui a joué sur le terrain de la Juve, match nul 2 partout. La Roma qui recevait Venise 1 partout. L'Atalanta, on en a déjà donc parlé, qui a perdu 2-0 à Milan. Et la Fiorentina qui, aux surprises, très sincèrement, s'est incliné sur le terrain de la Samp. Bon, on va peut-être commencer par le match le plus récent. C'est assez incompréhensible. La Fio reste quand même sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ils finissent mal la saison. Ils sont... En fait, il y a un vrai problème pour conclure les actions, parce que quand on regarde tous les chiffres avancés, c'est pas normal de se créer autant d'occasions et mettre aussi peu de buts. C'est difficile de ne pas parler du départ de Vlahovic aujourd'hui. Tu sais que Guillaume, plus j'y pense, et plus je me dis que l'équipe qui aurait pu finir quatrième, en fait, si elle avait gardé Vlahovic, c'était la Fiorentina.
Tu penses qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout?
Je me pose...
Évidemment, c'est du champ de l'hypothèse. Hein,
mais ouais, tu penses, bien sûr, c'est un peu du foot fiction, mais...
Bien sûr.
Mais... Quand tu vois encore aujourd'hui comment ça joue et ce qui est raté par les deux attaquants qui sont censés le remplacer, donc Cabral et Piontek, qui, je le rappelle, depuis janvier, c'est 5 buts à eux deux en Serie A, pendant que Vlahovic a mis 17 buts en 21 matchs.
Et quand tu vois aujourd'hui comment exploiter en plus à la Juve, c'est sûr que
mais,
même...
Et tu sais, ça fait partie des fameux débats, c'est-à-dire la Fiorentina... Enfin, Commisso en l'occurrence a fait comprendre qu'il ne pouvait pas refuser les 80 millions d'euros plus bonus. Je crois qu'il y en a 5 hein, de bonus, c'est quelque chose comme ça. Je me demande si c'est pas 81,5 d'ailleurs en montant exact et 5 de bonus. Et effectivement, c'est son argent. Et quand t'as une offre comme ça pour un joueur dans un club italien aujourd'hui, qui est capable de refuser 80 millions d'euros pour un joueur? Honnêtement, personne. Pas même la Juve, pas même l'Inter, pas même le Milan, très sincèrement. Donc, mais en même temps, tu te dis, si tu avais réussi à accrocher la quatrième place, de facto, avec la participation en phase de groupe, plus les primes de résultats que tu aurais obtenues, plus la billetterie qui t'aurait rapporté beaucoup plus que si tu te qualifies simplement pour l'Europa League, tu aurais déjà récolté la moitié de cette somme-là. Et donc, tu te dis, il y a un petit côté, je trouve, hein, il y a un petit côté « et si ». Et si la Fiorentina avait gardé Vlahovic, je me demande s'ils n'auraient pas été en capacité de... J'ai pas envie de dire que je suis persuadé, parce que c'est pas vrai, c'est comme tu l'as dit, c'est une hypothèse, c'est de la fiction. Mais j'ai envie d'y croire, en fait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, on a les mêmes défauts qu'en début de saison, c'est-à-dire des ailiers qui ne marquent pas, ou qui ne marquent pas assez. Je suis désolé, Nico Gonzalez, moi, c'est un joueur que j'adore. Je trouve que... Dans le type de joueur qui va vite, qui dribble, qui gagne d'un contre un, je trouve que c'est... Je pense que tu es d'accord, Guillaume. Il a quelque chose de particulier, quoi. Vraiment, tu sens une qualité technique qui est assez dingue. De l'autre côté, Sotil, ça marque pas assez. Iconé, ça marque pas assez. même à gauche, quand Saponara joue et que Gonzalez est mis à droite, ça marque pas assez.
Il y a un problème de finition, parce que le circuit pour arriver à la conclusion est bon, oui. Mais il y a évidemment un gros problème de finition, et malheureusement, en plus, il y a forcément inévitablement un problème de confiance au fur et à mesure des matchs, qui fait que bah, tu t'enlises dans une espèce de, comment dire, de pessimisme permanent, où tu sais que bah, tu vas arriver à ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à conclure, et à force c'est une sorte de cercle vicieux où tu n'en sors pas, parce que contre la Samp ils ont encore évidemment des occasions, mais du moment que tu ne conclues pas, et tu l'as dit, il y a aussi un problème individuel. Si tu prends le rendement de chaque joueur, tu vois, moi j'ai parlé avec Jonathan Iconé pour Eurosport la semaine dernière, et même lui me disait, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te manque? Alors lui, il arrive en janvier, donc on peut être aussi un peu plus, clément, mais voilà. Mais il m'a dit, j'aimerais être plus décisif, et tu vois que c'est quelque chose qui le pèse quand même. Il avait été à Naples, on s'en souvient, quand Lazio gagne 3-2, avec un beau but de Cabral pour finir, mais tu sens que devant, vraiment, chaque joueur a du mal à élever son niveau. Et à l'époque, avec Vlahovic, tu maximisais beaucoup des occasions parce que lui en manquait très peu. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui te manque. Après, est-ce qu'ils auraient pu être quatrième ou pas? Malheureusement, on le saura jamais. En tout cas, ils auraient pu, en tout cas, rester un peu plus haut, plus longtemps. Mais ce blackout, tu vois, je me l'explique mal quand même, parce qu'il y a évidemment ce problème de finition, mais même mentalement, parfois, je trouve que l'équipe est un peu la lumière, et que même l'euphorie, il y a eu beaucoup d'euphorie cette année à Florence, beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est une équipe évidemment qui a joué avec le feu ces dernières années, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Et cette saison, le jeu que tu as pu voir au Frank, qui a été parfois très flamboyant et très agréable à voir, le jeu d'Italiano, bah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu cassé, comme si la machine, tu sais, comme si le jouet s'était un peu cassé en fin de saison, même si la trame reste là. Tu sens que même lui en manque parfois de solutions, et qu'il est un peu dépité par le manque de résultats qui arrivent, et qui pourrait mettre en péril quand même une fin de saison. Et alors, je dis pas que ça gâcherait tout, parce que tu as posé des bases solides, et il faut rappeler que c'est sa première saison à Italiano, donc c'est très important pour la suite. Mais il y aurait quand même, tu vois, un petit goût amer de se dire, bah, le fameux et si. Et c'est sûr que ce serait un peu dommage, parce que Florence, elle a vraiment vibré, et finir comme ça, c'est très compliqué. Et pour lire un peu les journaux de Florence, même aujourd'hui, tu sentais que même les journalistes étaient un peu amers, parce que tu finis sur une mauvaise note, et ça pourrait te gâcher pas la saison, mais une partie, et ça serait dommage.
De toute façon, c'est toujours pareil. Plus tu amènes d'espoir, plus tu as de chances de décevoir au final. Et c'est pour ça que les gens, les journalistes, les supporters, parfois peuvent être un peu déçus de la fin de saison. Mais malgré tout, moi, je pense que ça sera une saison réussie, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Parce qu'encore une fois, quand on va juger ou évaluer, plutôt que juger, j'aime pas ce mot-là, on va évaluer ou qu'on va revenir sur le travail d'Italiano. En fait, tu sais, c'est un peu comme Simone Inzaghi à une échelle différente, hein, mais il faudra se souvenir d'où était Florence au début de la saison, en fait. Enfin, avant le début de la saison, quand Italiano est arrivé, il a ressuscité cette équipe-là, clairement. Donc, tout ça est extrêmement positif. Je suis d'accord avec toi, tu as utilisé le bon terme quand tu dis qu'Italiano, parfois, a l'air un peu dépité. Et sur le banc, effectivement, quand il voit tout ce qui est raté, il donne vraiment cette impression de se dire, mais pff, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, quoi.
Il a des gestes, tu sais, parfois du dépit, vraiment, ouais. Il lève les bras en l'air ou...
C'est ça, et en fait, il se dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et même, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de plus, nous, comme équipe? Mais on fait tout bien, sauf la finition, ça devient un peu compliqué. Et encore une fois, c'est quand même très lié au départ de Vlahovic. Et ça, malheureusement, Italiano, il n'y peut rien.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Surtout que c'était un départ en plein milieu de saison. Mais c'est aussi,
totalement.
C'est aussi ça qui est dommage. Parce que le vent de cet été, voilà, ça n'aurait pas été très surprenant. Mais c'est vrai que le timing de l'opération à ce coup-là, en janvier, déjà personne ne s'y attendait. Et c'est sûr que bah, ça casse aussi un peu la dynamique que tu avais réussi à instaurer en première partie de saison.
Et de mémoire, Piontek, il est en prêt. Hein.
Oui.
Il n'y a pas d'obligation d'achat, donc lui, ça m'étonnerait qu'il reste.
Je ne crois pas. Ouais, que Cabral avait été acheté, lui.
Ouais, Cabral va rester et
ouais, par contre,
il va falloir acheter un autre attaquant aussi. Après, peut-être que Cabral, avec un peu plus de temps, ça peut fonctionner, hein, mais de toute façon, il ne pourra rester avec un seul numéro 9. Mais voilà.
C'est dommage parce que Piontek avait bien commencé, comme souvent.
Bah, comme souvent.
Ouais. Et ça, c'est un peu éteint au fur et à mesure du temps. Et Cabral, voilà, ça fait 6 mois. Tout le monde disait le plus grand bien, tu sens qu'il y a un potentiel. Voilà. Après, peut-être que, bah, comme Iconé m'avait dit, il faut aussi du temps d'adaptation et avec une préparation dans les jambes, avec une demi-saison.
Bien sûr.
Peut-être que, voilà, tu as posé quand même des bases assez solides pour une première partie de saison et je suis d'accord avec toi, pour moi, la Fiorentina a quand même réussi sa saison, même s'il y a un goût amer à la fin. Donc, la saison prochaine, avec tout ça d'accumulé, peut-être que tu peux vraiment viser. Le top 4, on verra bien en fonction de ce qui va se passer cet été, mais au moins viser une place européenne qui pourrait quand même arriver en fin de saison. Hein. Il ne reste plus qu'un match, c'est encore possible.
Bien sûr.
Mais voilà, peut-être que l'année prochaine, tu peux être là avec plus, on va dire, plus de consistance.
On passe à la Roma, Guillaume. C'était samedi soir, pardon.
Ouais.
Match.
Combien de tirs ?
Match. mais attends, on va y venir. Avant d'enregistrer, en fait, tu m'as dit match lunaire et j'avais noté ça sur mes petits points. J'avais mis exactement match lunaire. J'ai même mis une bizarrerie du football. Ouais. Il faut savoir déjà, quand on va parler des stats, il faut savoir que le match en temps global a duré 101 minutes avec les arrêts de jeu, etc. Sur 101 minutes, il y a eu 50 minutes de temps effectif de jeu. Déjà, on va dire déjà que c'est pas beaucoup, mais c'est un peu une constance en Italie. 50 minutes de temps de jeu effectif, 46 tirs. Ça veut dire qu'on est quasiment à un tir par minute de la Roma sur ce match-là. 15 arrêts de Menpa, le gardien finlandais. C'est le record de la saison. J'ai pas été fouillé plus loin parce que j'ai pas accès aux données si précises. Je pense que depuis 2010, c'est arrivé très peu souvent. Je mettrai pas ma main à couper que ça n'est jamais arrivé, mais je pense que c'est arrivé très peu souvent. 4 barres transversales. Et on a eu aussi 20 corners, 4 expected goals et un seul but marqué. Une fois que t'as dit ça, qu'est-ce que tu veux dire d'autre en fait?
Bah, ça résume un peu la physionomie du match pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était, moi, j'étais du lunaire parce que, tu vois, on était avec plusieurs amis au bar, plusieurs supporters de la Roma, il y avait un peu tout. Et tu sais, les gens se regardaient, mais en disant, mais c'est pas possible. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'irrationnel que le football peut parfois t'offrir, mais c'était vraiment quelque chose d'assez dingue, d'assez difficilement concevable, tellement il y avait d'occasions, même encore dans le temps additionnel à la fin du match. Hein. Puis il y a aussi du VAR, tu sais, à la dernière seconde.
Ouais.
Chaque minute, vraiment, il s'est passé quelque chose. Il faut rappeler que Venise était à 10, était déjà relégué en Serie B en plus.
Oui.
Donc il y avait vraiment quelque chose d'assez. C'était assez surréaliste. Et déjà, le fait que la Roma, en plus, la Roma voulait quand même bien terminer, c'était le dernier match Olympico. Il y avait une belle ambiance. Cette saison, les supporters de la Roma ont été assez dingues quand même.
Ouais.
Dans l'enthousiasme qu'ils ont apporté à une équipe qui. Parfois, il ne lui a pas toujours rendu.
Non. Plus gros taux de remplissage en Serie A cette saison.
Ouais, il y aura évidemment cette finale à Tirana de Ligue Europa Conférence. Mais en Serie A, du moins, il y a eu quand même des périodes, on va dire, des passages à vide qui ont été assez compliqués.
Totalement.
Les supporters ont toujours répondu présent. Et il y avait cette volonté vraiment de bien terminer l'année là-bas. Voilà, ça n'a pas été le cas. Mais comme tu l'as dit, que dire ? Enfin, c'est vraiment. C'était un match. Qu'on voit très peu déjà dans cette physionomie-là d'attaque-défense, surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est difficile vraiment à analyser parce que la Roma a tout fait pour marquer. Et quand tu te dis que ce match a terminé à un partout, c'est assez, c'était assez dingue. Quoi. C'était lunaire, vraiment lunaire.
Et il y a une vraie question aujourd'hui. On n'en fait pas plus sur le match parce qu'honnêtement...
Franchement, bah les stats résument tout.
Ouais,
les
voilà, c'est ça. Il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais vendredi ? Vendredi, tu as le match au Torino. Et mercredi prochain, le mercredi d'après, tu as la finale à Tirana. Comment tu gères vendredi ?
Les journalistes romains posaient la question hein, sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, je l'ai lu lundi matin en disant « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Est-ce qu'on envoie l'équipe B ? Est-ce que,
parce que si tu avais gagné contre Venise, avec les résultats de la Fiorentina et de l'Atalanta, tu étais quasiment assuré d'être européen, quelle que soit la Coupe d'Europe. Maintenant, actuellement, tu es sixième, donc dans un spot Europa League. Et je vais donner, si tu veux, Guillaume, on va faire très simple. La Lazio est déjà sûre d'être en Europa League. Donc, oui. Il y a, sur les quatre équipes, il y en a déjà une qui est assurée. Donc, il n'y a plus que trois équipes pour deux postes. Je vais donner juste le classement pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas en tête. Sixième, Roma, 60 points. Septième, Fiorentina, 59 points. Huitième, Atalanta, 59 points. Je donne les matchs tout de suite de la 38e journée, ce qui permettra d'ouvrir sur qu'est-ce que la Roma doit faire vendredi. Vendredi soir, donc Torino-Roma. Ensuite, on a samedi soir Fiorentina-Juve. Et nous avons.
Le match de l'Atalanta.
Je ne la trouve pas. Atalanta-Empoli, voilà, samedi soir aussi à 20h45. Bon, Atalanta-Empoli, ça peut quand même tomber. Voilà, plutôt du côté, si la pièce doit tomber, on va dire plutôt du côté Atalanta-Guillaume.
Tu peux imaginer une victoire de la DR, en effet. Disons que c'est le scénario le plus probable. Empoli n'a plus rien à jouer, ils sont sauvés. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises.
Fiorentina-Juve. Bon, ok, la Juve n'a rien à jouer. Néanmoins, il y a rivalité. Si à la saison très décevante de la Juve, tu ajoutes en plus une défaite sur la pelouse de la Fiorentina, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vécu. Donc, non. On peut quand même imaginer une implication correcte de la Juve.
Ah oui. Ah bah oui, déjà la rivalité fait que, en plus tu auras évidemment le retour de Vlahovic, le deuxième retour parce qu'il y avait celui en Coupe d'Italie, ce sera un match assez électrique, rivalité historique, je pense que la Juve n'aura même pas, la question va beaucoup se poser, et s'ils peuvent gâcher la fête de la Viola, je pense qu'ils le font avec plaisir, donc après on peut rappeler aussi que la Juve n'a plus rien à jouer, hein, son qualifié en Ligue des Champions, le podium n'est plus atteignable. Voilà, sur le terrain en tout cas, la Juve n'a plus grand chose à jouer. Après, la rivalité fait que c'est un match qui sera quand même assez compliqué pour la Fiorentina.
Et nous avons notre Torino-Roma. Vendredi, le Torino n'a plus rien à jouer et au maximum peut gratter une place à l'Hellas Vérone, c'est-à-dire finir 9e. Il manquera, ça c'est important de le dire quand même, il manque Bremer et Singo côté Torino et c'est pas rien.
Non.
Sachant surtout que, de mémoire, lors du dernier match, Izzo et Dzima sont sortis sur blessure. Mais bon, apparemment, ils seront disponibles pour le match de vendredi. Mais quand même. Qu'est-ce qui...
Bah alors moi, je vais te poser la question, Ivan, d'une autre façon. Je vais te dire, à ton avis, qu'est-ce que Mourinho va faire ?
Moi, je pense qu'il va essayer de mettre l'équipe la plus compétitive. Mais je vois, je pense qu'il y a au moins, je suis en train de réfléchir, il y a au moins
4-5 joueurs qui vont être les Européens.
J'en vois au moins 3. Disons que au départ, je t'aurais dit Karsdorp, mais comme il a joué que 45 minutes là contre Venise, et on a vu le match de Maitland-Niles, oh là là, mon Dieu. Et même un contrôle, c'est compliqué. Hein. C'est même une passe simple, c'est compliqué. Enfin, honnêtement, c'est... Oh là là là, c'est le renfort de janvier qui n'est pas un renfort du tout.
Pellegrini quand même. Pellegrini.
Je suis pas sûr en fait parce que moi je te dis les trois comme ça que j'ai en tête. En un, Smalling en défense. Je pense que il va faire souffler Smalling. Parce qu'il n'a pas soufflé lors du dernier match. Et bon, il ne peut absolument pas risquer une blessure de Smalling parce qu'il y a une équipe avec et. Enfin, une défense avec et sans, clairement. Le deuxième que je vois souffler, c'est Abraham devant. Parce que même chose, tu ne peux absolument pas te pointer en finale européenne sans Abraham. Impossible. Et ensuite, je pense que Zaniolo va être titulaire. Je pense que Mancini sera titulaire en défense. Et donc, moi, je pense qu'il y aura une défense Mancini, Ibanez et Kumbula. Je pense qu'il y aura Karsdorp à droite et Zalewski à gauche. Parce que les deux n'ont joué que 45 minutes contre Venise, donc ils ont eu un petit turnover, on va dire ça comme ça. Je pense qu'au milieu de terrain, on aura Oliveira. Mkhitaryan ne sera pas disponible, et ça paraît compliqué qu'il soit disponible pour la finale. Est-ce que tu me vois venir ? Moi, je pense que le milieu qui risque de souffler, c'est Cristante. Parce que pour Mourinho, il est très important, il considère qu'il n'y a que lui qui a ce profil-là. Et Cristante, il a quasiment pas soufflé de la saison. Enfin, très très peu. Donc j'ai bien en tête Smalling, Cristante, Abraham pour sûr. Doute comme toi sur Pellegrini.
Ouais, on peut dire, peut-être un mini turnover pour vraiment les éléments clés. Mais une base quand même assez solide pour. Parce qu'on peut dire quand même que la Roma joue sa saison en l'espace de 5 jours.
Ouais.
Parce que, je te dis une bêtise, mais si tu perds, ça se passe pas bien vendredi à Turin et les autres résultats font que l'Europe est remise en cause et qu'en plus, mercredi, à Tirana, tu perds la finale contre Feyenoord, c'est vrai que la saison de la Roma pourrait prendre quand même une autre tournure, pas la bonne.
En fait, c'est simple, hein. Soit tu peux avoir une saison réussie, soit tu as une saison ratée.
C'est une espèce d'all-in sur quelques matchs, mais la question que tu as posée juste avant, de savoir ce qu'allait faire Mourinho vendredi, c'est vraiment une question qui revient avec insistance dans les médias romains, où voilà, on s'inquiète un peu, évidemment, parce que gagner à Turin, c'est jamais simple, hein, parce que le Torino Duric, c'est quand même une équipe assez compliqué à jouer. On rappelle que ils avaient arrêté l'Inter, ils ont arrêté Milan. Je crois qu'ils ont fait dans les derbies, ils n'ont pas été non plus déméritants, il me semble. Il faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui n'est pas évidente à jouer, même s'il y aura des absents. Et après, tu as cette finale face à Feyenoord. Ça reste un trophée européen. La Roma qui est en train depuis très longtemps. Moi, Ivan, je t'avoue que je suis assez frustré que la finale soit à Tirana, pas tant pour l'endroit, mais plus pour le stade. Parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quasiment un exode de supporters romains qui se seraient préparés. J'ai eu beaucoup de messages moi, pour me dire, mais il n'y a que ça en place, pourquoi ? Et je connais beaucoup de supporters romains de France qui vont partir à Rome, rien que pour voir le match, pour le vivre là-bas, parce qu'ils sont assez frustrés de ne pas pouvoir aller à Tirana. Mais tu sens quand même qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'électricité, mais il y a aussi beaucoup de pression, parce que en 5 jours, tu joues ta saison. Mourinho joue aussi, évidemment qu'il a apporté quelque chose pour sa première année, mais si tu l'as fini de mauvaise façon, il y a quand même un débat qui pourra s'ouvrir. Alors pas à Rome, et tu le sais, Johan, parce qu'à Rome, Mourinho, pour l'instant, est intouchable, ou quasiment, dans les médias ou même dans les radios, et même chez les supporters. Mais en tout cas, nous, du moins, on pourra en parler. Et c'est vrai que le débat changera en fonction de ces deux derniers matchs où tu joues vraiment ta première saison, et pour Mourinho et pour certains joueurs. Et ça pourrait évidemment influer aussi sur l'été qui va arriver, sur le mercato et sur certains choix qui vont être faits par Thiago Pinto et la présidence Friedkin. Donc c'est vraiment 5 jours qui vont être capitaux pour la saison de la Roma.
Exactement, on passe à la Lazio. Non, on va faire l'Atalanta avant, juste très rapide, parce qu'on a déjà parlé du Milan dans ce match-là. Je voulais juste faire le petit comparatif. On a beaucoup parlé des deux individualités qui ont fait la différence côté Milan. Alors collectivement, c'était sérieux, hein, mais c'est quand même venu de deux individualités. Et le problème, c'est que l'Atalanta, ça fait un petit moment quand même que les individualités ne permettent plus de soit de soutenir le collectif, soit de sortir le collectif de passages un peu plus compliqués. Je pense à Jérémy Boga qui est quand même en difficulté depuis qu'il est arrivé. Alors, nouvelle position, fonctionnement différent, etc. Mais un truc qui me frustre beaucoup avec Boga, c'est que tu as l'impression qu'il va pas au bout de ce qu'il fait, en fait. Tu as toujours l'impression qu'il joue avec le frein à main et que en fait, il a tellement de capacité à éliminer l'adversaire, à faire beaucoup plus que ce qu'il fait. Tu sais, on le voit souvent commencer à dribbler et puis après passer un coéquipier. Non, va jusqu'au bout, t'es capable d'éliminer. On l'a vu à Sassuolo, tu peux éliminer trois défenseurs, tu le fais pas systématiquement, mais ouais, ça me frustre un peu en fait. Et Zapata revient d'une blessure et lui, c'est compliqué. Hein. On sait que Zapata, il a besoin de temps pour être en condition, etc. Sauf que là, la blessure est arrivée au mauvais moment. Il est revenu pour le sprint final, mais il est clairement pas à 100% physiquement. Muriel, il est moins décisif que la saison passée. Voilà. La baisse de résultats de l'Atalanta, je trouve, s'explique aussi par ça. Par des individualités. On en a toujours eu. On a toujours su parler du collectif de l'Atalanta qui a été remarquable. Mais il y avait aussi des individualités qui, sur des actions, faisaient la différence à eux tout seuls. Souviens-toi, Ilicic, les premières années de Gasperini, du Papu Gomez. Ensuite, on a eu les frappes de loin de Malinowski, on a eu Zapata, Muriel. Là, ils font venir Boga pour ça aussi. C'est un profil, moi, c'est un des premiers trucs que j'ai dit, c'est un profil qu'il n'y a pas à l'Atalanta, qui est capable de gagner beaucoup de 1 contre 1. Et en fait, on n'a rien de tout ça depuis quelques semaines.
Évidemment que tu as un collectif qui a toujours performé, mais ça faisait longtemps que l'Atalanta n'avait pas fait une saison comme ça. On avait presque perdu l'habitude de ne pas voir l'Atalanta jouer les troubles faits devant, mais comme tu l'as dit, il y a une baisse, on va dire, de rendement de certains joueurs, de certains tauliers, qui fait que le collectif en pâtit forcément, et les résultats derrière. L'Atalanta a tenté beaucoup aussi de l'Europa League. Il y a eu cette double confrontation, ouais, et cette élimination assez logique finalement face à Leipzig. Mais en tout cas, voilà, il y aura des regrets, et il y a aussi une question, comme pour la Roma, la question qui se pose à Bergame. Est-ce que c'est la fin du cycle Gasperini? Il y a eu une période de doute, même dans les paroles du Gasp en conférence de presse, où il a un peu entretenu le suspense. Aujourd'hui, la tendance voudrait que lui reste cet été pour une nouvelle saison à Bergame. On sait que Sartori, lui, va partir, qui, on peut dire, Johan, est un peu l'artificier aussi de cet Atalanta-là.
Ah, c'est une personne extrêmement importante du projet Atalanta depuis des années, extrêmement importante.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle un peu partout, mais c'est vrai que son départ, alors apparemment il y a quelques frictions avec Gasperini, mais...
Ça va au-delà, moi j'ai eu des...
Des échos.
Ah oui, j'ai eu des échos, c'est au-delà des frictions. Oui,
ouais, et Gasperini, on est d'accord, plus ou moins c'était soit lui, soit moi. Plus ou moins,
c'est un peu ça.
Voilà, c'est
un beaucoup peu ça.
Vous nous avez compris.
Ah, c'est ça.
mais en tout cas, voilà, son départ va faire beaucoup de mal, forcément, parce que le projet va prendre un autre tournant, un autre virage. Et c'est vrai qu'à Bergame, tu auras quand même un été où tu vas avoir plusieurs questions pour continuer, pour te reprendre, parce que l'Atalanta va devoir donner une autre impulsion pour la saison prochaine, parce que tu as des individualités qui sont vraiment en baisse de régime. Et tu as peut-être besoin de nouvelles choses aussi, un nouveau souffle pour repartir de l'avant et revenir en Ligue des Champions où, mine de rien, quand même, tu t'étais habitué, où tu n'as pas du tout démérité même, où tu as frôlé cette demi-finale, malheureusement perdu contre le PSG à la dernière seconde. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à l'Atalanta, il y a quand même un cycle qui peut se fermer, mais qui peut reprendre encore avec Gasperini. Mais on sent quand même qu'il y a... Il y a quelque chose peut-être de nouveau à apporter pour que ce collectif justement brille de nouveau parce que voilà, en ce moment, du moins cette saison, il y a eu vraiment des périodes assez compliquées pour ce collectif-là qui aujourd'hui pour moi doit être renouvelé, peut-être pas dans les grandes largeurs, mais il y a quand même beaucoup de retouches à faire pour retrouver l'ADR qu'on a connu ces dernières années. Mais tu as quand même des bases, évidemment, pour repartir. Hein.
Bien
donc,
sûr.
Donc voilà. Mais en tout cas, Gasperini, la tendance aujourd'hui, on voudrait qu'il reste. Donc, sauf surprise, et je pense qu'il n'y en aura pas, normalement, le Gasp restera sur le banc de l'Atalanta, mais à savoir sous quelle forme, avec quel projet, avec quelle demande, avec quelle contrainte. Il y a quand même un été qui se prépare assez, assez animé du côté de Bergame.
On finit sur la course à l'Europe avec la Lazio qui a, elle, tamponné son ticket pour l'Europa League grâce au but final de Milinkovic-Savic, encore lui, à la 96e minute, sur la pelouse de l'Allianz Stadium avec, ça va pas aider son cas, mais une perte de balle de Moiskin sur un 3 contre 3 qui donne une transition à la Lazio qui marque le but égalisateur. Bon, on va dire que c'est pas la meilleure gestion de balle de la carrière.
On en reparlera de la Juve. Hein,
ouais, ouais, oui, on en parle pas aujourd'hui, voilà. Mais on aura le temps d'en reparler.
Il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
C'est comme le ouais. Napoli. Enfin, on peut pas parler de tous les clubs, mais je trouve que la Lazio a fait vraiment un bon match. Pour moi, c'est parmi les meilleurs matchs cette saison. Je trouve qu'il y a eu des séquences collectives qui étaient vraiment de grande qualité. Et pas simplement sur de la conservation pour faire sortir l'adversaire. C'est vraiment des circuits de construction qui débouchaient sur des occasions, sur des tirs. Il y a eu beaucoup de séquences à une touche de balle, où ça accélérait le jeu, où la Juve était en difficulté. J'ai été vraiment séduit par ce match de la Lazio et en me disant si la première année de Sarri se conclut comme ça, presque vivement la deuxième en fait. Parce qu'on sait que c'est un travail de longue haleine, que le changement avec par rapport à ce qui était fait avec Inzaghi a été brutal en fait. Clairement, tu fais totalement autre chose, au-delà même du simple système de jeu et comment tu mets tes joueurs sur le terrain. Donc, la Juve avait plus rien à jouer. Ça peut jouer dans la performance de la Lazio. Pourquoi pas, on peut tout entendre. Mais malgré tout, j'ai bien aimé le match de la Lazio. Et finalement, le 2-2, il est, j'allais dire mérité. Ouais, voilà, il est logique, mérité. Il n'y a pas de mérite dans le foot, ou très peu, je pense. Mais il est clairement logique. Ouais.
Non, je suis bien d'accord avec toi sur le constat global de la saison de la Lazio. Et voilà, je suis assez content que ça régresse. Enfin, non, encore une fois, normalement. Parce qu'il y a quand même une période de doute, hein. À un moment.
Ouais, puis avec le Tito, on ne sait jamais, hein.
Bah voilà, prolonge pas. En décembre, lors du repas de Noël, la prolongation avait été annoncée par l'Otito. Finalement, il n'y a rien eu. Dans les médias romains, t'avais quand même beaucoup de sources qui parlaient de, alors pas de conflit, mais de, voilà, avec Sarri quand même qui se pose des questions sur le projet, ce qu'il demande, même sur le mercato. Est-ce que, il sera satisfait des joueurs qui arriveront? Lui a fait plusieurs demandes explicites. On sait que Milinkovic-Savic devrait partir, malgré, on va dire, Sarri a un peu essayé de temporiser après un match contre la Juve, mais dans l'absolu, normalement, ça devrait être peut-être son dernier cadeau, d'ailleurs, sa qualification en Europe. Mais en tout cas, voilà, ce sera important aussi que Sarri soit... pas trop satisfait de ce qui va se passer cet été, parce que...
Ouais, mais Guillaume, c'est un entraîneur avec l'Otito comme président, il a jamais ce qu'il veut.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il s'est posé des questions et qu'il se les pose toujours. Ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, l'Otito Tare Sarri, où, voilà, pour éclaircir un peu le projet à venir et les retouches dont l'équipe a besoin pour justement qu'elle devienne vraiment l'équipe de Sarri. On a vu des bribes cette année d'une équipe vraiment, on va dire, sarienne, comme vous voulez, c'est un objectif que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, tu as vu quand même des bases solides, et notamment ces derniers mois, hein, où tu sens vraiment quelque chose qui s'est créé. Et, comme tu l'as dit, les joueurs ont absorbé quand même certaines choses demandées par Sarri. Mais encore une fois, c'est un projet qui vient de commencer, donc il faut lui laisser du temps. L'année prochaine, si Sarri reste, il y aura évidemment... plus d'exigences aussi, parce que ce sera la deuxième année et que si ça se passe mal, forcément, tu auras une autre réflexion que la première. Mais voilà, le match nul était mérité à Turin. Enfin, pas mérité, tu l'as dit, assez logique. La qualification d'Europe fait quand même du bien pour tout le club. Et maintenant, voilà, reste à apporter les joueurs nécessaires, parce que tu auras quand même des départs cet été. Est-ce que Romagnoli, par exemple, ton joueur, va arriver en défense centrale? Est-ce qu'il y aura aussi le poste de gardien qui va être discuté, on va dire, parce que Berisha, Reina, voilà, je pense que tu peux quand même trouver mieux.
Strakosha.
Strakosha, pardon, ouais. pas Berisha, Strakosha.
Honnêtement, c'est pas le poste prioritaire pour moi à changer. Hein. Enfin...
Non, mais en tout cas, c'est ce qui filtre
bien sûr.
Dans les médias. Donc, oui, pour moi aussi, je pense que tu dois intervenir ailleurs en priorité, du moins. Après, évidemment, tu sais, Johan, tout dépendra quand même du départ de Milinkovic. Déjà, s'il se fait, et surtout à quel prix, c'est sûr que le vendre aujourd'hui à 80 millions, et encore, si tu le vends à 80 millions, ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas donné. Après, évidemment, tu peux refaire une équipe autour de ça, mais c'est sûr que tout dépendra de ce départ-là. Donc c'est on va dire que c'est le point de départ du mercato que la Lazio va faire et Sarri il sera évidemment très attentif. Il a déjà fait une liste de joueurs qu'il réclame pour mener à bien son projet. Donc ce sera quand même un été assez animé et surtout si Sarri n'est pas content et entre le Tito Sarri, on a bien vu qu'il pouvait y avoir quelques tensions, mais rien ne te dit que en plein été tu sais pas vraiment ce qui peut se passer donc ce sera surveillé, mais en tout cas l'objectif européen atteint et c'était quand même c'était un peu ce qui était attendu au début de saison donc là-dessus Sarri quand même a pour le coup le résultat de son côté après quelques turbulences aussi cette saison.
On passe à la lutte pour le maintien, mon cher Guillaume. Dernière partie de ce podcast avec deux équipes qui restent en lice pour le dernier spot disponible pour se maintenir. Je précise d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, que Venise a été reléguée. C'était juste avant le match contre la Roma. Et ce week-end, on a eu aussi la relégation du Genoa. Bon, Guillaume, on n'est pas surpris. Hein. Pendant combien de saisons de Calcio PP, on a dit...
Voilà.
Ça va peut-être être la saison de la descente, ça va peut-être être la saison de la descente. Bon, ce coup-ci, on y est.
À force de jouer avec le feu, malheureusement, ouais. Le Genoa s'est brûlé. Club historique, c'est forcément triste pour la Serie A, mais tu l'as dit, c'était attendu. Et ces dernières saisons ont été vraiment trop compliquées. Beaucoup de choix hasardeux, que ce soit sur le banc, sur le terrain. Il y a eu la vente tardive de Preziosi, donc... Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, le coup près est tombé. Et je disais tout à l'heure une interview de Clichy, toi, le capitaine, qui disait que c'était attendu. Donc, tu vois, même les joueurs, eux, voyaient bien quand même que c'était quelque chose qui pendait au nez, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Et elle est tombée. C'était quelque chose qui était quand même attendu par tout le monde.
Il nous reste donc la Salernitana et Cagliari. Alors, j'ai vu le Empoli Salernitana. Honnêtement, je me suis régalé. Match hyper sympa, très ouvert, beaucoup de jeux, des occasions, des buts, des rebondissements. Là où c'est un peu dur pour la Salernitana, c'est de te dire que tu avais le pénalty du maintien dans les 10 dernières minutes.
Ouais, ce Jorginho contre la Suisse.
Non, alors ça, Guillaume, on n'a plus le droit d'évoquer ce sujet, mon cher Guillaume.
Je dors encore mal, Johan. je dors encore difficilement.
Je comprends, je comprends.
Non, mais c'est vrai que Perotti, ouais. Ouais,
en plus, qui entre, qui l'obtient le penalty.
Et qui a cette manière de les frapper, comment dire. Pourtant, il y en a pas, je ne sais pas s'il faudrait regarder les statistiques, il en a raté beaucoup dans sa carrière.
Non, mais je crois,
Roma,
que... je crois qu'en Serie A, il en a raté que 2 sur plus de 20, en fait.
Moi, je me souviens qu'à la Roma, c'était quasiment une sentence, quoi.
Ouais,
il exactement. Avait une manière particulière de les tirer, et c'est vrai que là. Après, tu vois, tu n'es pas aussi à l'abri de la pression, à l'abri de l'enjeu. Même quand tu es un joueur avec beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'il est arrivé en janvier. Et c'est sûr que voilà, tu as forcément le spectre de te dire « et si je l'avais marqué ?» Après, aujourd'hui, on peut dire aussi que la Salernitana est en position de force par rapport à Cagliari. Donc, tout est entre les mains de l'équipe de David et Nicola et en tout cas, il y aura un engouement assez incroyable. J'ai lu que l'arrêt qui aurait pu être rempli 3 fois avec toutes les demandes de billets. Donc il y aura aussi un public pour les supporter. Si je ne m'abuse, Cagliari va jouer à Venise, qui est déjà relégué, si je ne me trompe pas dans le calendrier. Donc ce sera quand même une journée assez animée des deux côtés. Mais en tout cas, Salerne part clairement. Avec les cartes en main, parce qu'ils ont des points d'avance et que il suffit pas grand chose pour boucler un maintien qui serait, alors j'ai pas envie de dire historique, parce que la notion reste vague, mais vu d'où Salerne partait et où ils étaient, j'ai envie de te dire, même le 31 décembre, ou alors on parlait d'une équipe en vente, mais le gong allait tomber, ça a été racheté sur le fil. Mais vraiment sur le fil, pour une question de minutes, voire de secondes. Voilà, tout le contexte fait que le maintien serait vraiment assez incroyable. Mais Cagliari, tu sais, finalement, il y a aussi beaucoup de mauvais choix.
Bien sûr.
Quand tu réfléchis ces dernières années. Alors, j'ai pas envie de dire comme le Genoa, mais il y a eu quand même des choses qui ont été.
Oh, c'était proche, hein. Enfin.
Oui, voilà.
Mais enfin, disons proche.
Disons qu'il y a des similitudes entre les deux équipes. Après... Mais les deux présidents, hein, j'ai envie de te dire.
Ouais, mais après, honnêtement. Moi, je trouve que la catastrophe industrielle, c'est Cagliari. Genoa, tu t'y attendais. Enfin, tu peux pas. Tu peux pas te sauver autant de fois sur le gong et toujours passer à côté, en fait. Cagliari, quand tu te souviens des recrutements qui ont été faits ces dernières années, où tu vas chercher des Nandez, des Rogue, des Nainggolan en prêt, des Strootman en prêt, des Diego Godin, des Keita Baldé, des Simeone, voilà, on est...
Et même cette saison, hein, ils n'ont pas été relégables souvent. Hein.
Ouais, bien sûr.
Le fil de la saison, Salah est sorti de la zone rouge il y a 15 jours. Donc, sur la dynamique, évidemment que le Genoa, c'est très attendu et pas du tout Cagliari. Mais en tout cas, c'est sûr que... il y a même eu, évidemment, ce départ de Mazzarri assez houleux ces dernières semaines, où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça va, à mon avis, aller dans la justice. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et...
C'est étonnant, c'est un départ d'entraîneur qui se passe mal en Italie, dis donc.
C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, hein. C'est une première et c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, tu vois, pour le coup, autant l'Inter a été très solide pour revenir sur le terrain dimanche soir et leur réponse a été très très forte après la victoire du Milan. Mais c'est vrai que Cagliari, tu vois, j'ai aperçu que peu de fois, sauf après le 2-1 pendant quelques minutes, pendant même 5-10 minutes, j'ai pas vu vraiment cet esprit de révolte, tu sais, d'une équipe qui a vraiment faim, qui... Je l'ai vu par bribes, mais contrairement à Salerne, où je l'ai vraiment vu beaucoup plus souvent, et notamment, ça a été inculqué par David et Nicole, mais j'ai... Voilà, je sais qu'il y avait eu une grosse préparation en amont pour le public, dimanche soir, avec la priorité aux Sardes, pour vraiment qu'il y ait une ambiance qui se crée. Le club voulait vraiment créer une espèce d'opération commando, mais je ne l'ai pas ressenti sur le match. Ou alors vraiment qu'à trop peu de reprises pour espérer quelque chose de plus face à l'Inter qui était en pleine lutte pour le titre. Si vraiment tu voulais arracher quelque chose, parce qu'en plus, Cal avait partant connaissance de cause, parce que la veille, Salerne a fait match nul. Donc, mine de rien, tu avais quand même l'avantage de savoir qu'en gagnant, tu pouvais, pas te sauver, mais tu pouvais quand même sortir de la zone rouge à une journée de la fin, en jouant à Venise le dernier match. C'est sûr que là, en perdant, ça devient très, très, très compliqué. Mais voilà, dimanche, je n'ai pas vu ce à quoi je m'attendais pour une équipe qui doit se maintenir quasiment à tout prix, parce que, comme tu l'as dit, ce n'était pas vraiment attendu au vu de la dynamique de la saison. Donc, je pense que Cal a vraiment fait trop peu et je ne sais pas vraiment si le changement de coach a été très, très utile à quelques journées de la fin, à savoir comment ça s'est passé, mais voilà, c'était, on va dire, une mosse du désespoir à une tentative inespérée d'inculquer une espèce de révolte qui n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, ça me paraît quasiment désespéré pour le maintien de l'équipe sarde.
Dernière petite précision. Attention, la Salernitana qui va donc jouer l'Udinese et qui n'a plus rien à jouer, ok. Il va manquer Ederson au milieu de terrain qui est suspendu. Et ça, c'est pas rien. Par contre, dans le sens inverse, Boinen qui était suspendu à Empoli revient. Et ça, c'est important. Du côté de Venise Cagliari, Venise, tu as dit, est déjà relégué. Pas de joueur suspendu ou indisponible, etc. Donc on verra, mais ça va se jouer. Donc les deux matchs vont se jouer en simultané dimanche soir à 20h45.
Du coup, dimanche soir, il faut pas faire grand chose, si j'ai bien compris.
Non.
Entre 18h et 20h45.
Exactement. il faut prévoir fin d'après-midi et soirée très libre.
Ouais, ça va être à partir de 18h, on aura donc, si on résume, la lutte pour le titre.
Oui. Donc, Inter Samp et Sassuolo Milan.
Voilà, et donc à 20h45 ou 21h, c'est
20h45,
tu auras Venise Cagliari et Salernitana Udinese. Tout va jouer vraiment à l'espace de 4 heures, quoi, entre 18h et 22h30, 45.
C'est ça, et c'est vrai que ce match, je reviens un dernier instant sur Empoli Salernitana. honnêtement, je pense que c'est pas loin d'un des meilleurs matchs de la Salernitana cette saison. C'est un des matchs où il se crée le plus d'occasions. Et ils sont simplement tombés sur un gardien en feu, Vicario, et on en reparlera, hein, mais la saison prochaine, que fera Cagliari avec ses gardiens? Parce qu'on le précise, hein, ils ont deux gardiens de très bon niveau, Si jamais ils descendent, ce qui semble être quand même l'hypothèse la plus probable, Kragne, je le vois pas aller en série B. Et après la saison qu'il vient de faire à Empoli, Vicario non plus.
Et c'est surtout que le prix, tu pourras plus demander ce que tu demandais il y a quelques mois.
Exactement.
Parce que c'était 30 millions, je crois, il me semble. Qui était
quand la Roma le voulait au moment où ils ont acheté Paul Lopez, donc ça doit remonter à 2019-2020. Donc à l'été 2019, c'était ça, c'était 30 millions d'euros. Voilà Guillaume qui boucle notre épisode du podcast Calcio et PP. Dernière ligne droite, dernière semaine, on a hâte de voir le dénouement de cette Serie A qu'on aime tant, avec des enjeux pour le titre, des enjeux pour les places européennes et un enjeu pour le maintien et la relégation, puisqu'il y a deux équipes pour une seule place assurée en Serie A. La saison prochaine, Guillaume, on se donne rendez-vous, là on peut l'annoncer, semaine prochaine pour un débrief de la 38e journée.
Oui, et puis on va avoir surtout le temps de revenir sur la saison, sur équipe par équipe quand même.
Ça viendra plus tard, mais au moins, petit débrief rapide de la 38e journée dès la semaine prochaine. Et après, on vous promet quelques petits trucs.
Oui, parce que je veux pas qu'on délaisse les frères de la Juve qui doivent se dire mais pourquoi ils parlent pas de la Juve, de Dybala, de Chiellini, de la gestion d'Agnelli, de Allegri. Enfin, il y a aussi plusieurs choses à dire. De Naples, évidemment, avec les embrouilles avec Spalletti. Donc,
Guillaume, des embrouilles avec De Laurentiis. qu'est-ce que c'est que ça?
C'est vrai. Et c'est pour ça, comme c'est une première, je me suis dit pourquoi pas en parler.
Bah oui, parce que ça se passe toujours bien, les entraîneurs avec De Laurentiis, habituellement.
Généralement, oui. Généralement, Gattuso, c'est bien fini. Ancelotti, c'est bien fini.
Benitez, ça s'est bien fini.
Pas
de problème.
Sarri, ça s'est bien fini.
Voilà.
C'est vrai que c'est assez rare. C'est assez surprenant, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler, Johan, si tu es d'accord, évidemment.
Bien sûr. Voilà, je pense dès qu'il faut apporter un peu de nouveauté et des choses qui ne se sont jamais passées, on est là.
En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, il y aura un épisode de fin de saison pour débriefer la dernière journée, la 38e, qui va être dingue. Et après, avec calme, quand ce sera tous repris de cette fin de saison folle, club par club, on pourra parler du mercato, on pourra parler de ce qui va venir, on pourra parler de plein de choses, Johan, il y aura quand même plein de choses qui vont venir, et puis en plus il n'y aura pas de Coupe du Monde l'hiver prochain, donc bon, on pourra parler de plein de choses. Donc l'élimination, Johan, on va pas se mentir, bon, c'est pas...
La quoi ?
Il y a l'élimination.
Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas ce que c'est.
Ah non, mais moi, les compétitions internationales, là, pendant 6 mois, on m'en parle pas. Hein. Moi, ça n'existe plus, hein, tout ça. Donc,
On fera des podcasts sur EPP pour combler un peu le manque qui va se créer bientôt. Donc voilà, on revient vite en tout cas.
Et puis, petit instant promo, Guillaume, à retrouver ton interview de Jonathan Iconé sur Eurosport.fr que tu as sorti ce week-end, je crois. Et à retrouver sur rmcsport.fr, interview avec Valentin Gendret, latéral français qui monte avec Lecce en Serie A. Voilà, comme ça vous avez deux petites interviews à retrouver pour avoir, comme on aime bien le faire, et mettre en avant les joueurs, et parfois ils sont français, parfois ils sont pas français, mais les joueurs qui font le football italien. Merci Guillaume, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Et puis on souhaite quand même à tout le monde une merveilleuse 38e journée. Il y aura des déçus, mais il y aura aussi des personnes qui sont hyper contentes. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.